Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. En mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. Eh bien, c'est sur un thème a priori plein de légèreté et de divertissement que nous allons nous embarquer dans cette émission, en parlant de télé-réalité, mais aussi de droit, avec nos invités. Je suis ravie de recevoir pour ça Laurent Gamet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Est Créteil, doyen de la faculté de droit et également avocat associé chez Factory Avocat. Avec vous, Arnaud Casado, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. La télé-réalité saisie par le droit, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Madame la directrice des programmes, laissez-moi vous présenter la future vedette du canal 19.
Bonjour, mon nom est Marie-Laurence Despins. Je suis très heureuse de participer au concours Big Star. Permettez-moi de vous faire découvrir mon univers.
Voi che sapete che cosa è amor?
Imaginez qu'à partir de la semaine prochaine, et ce durant 3 mois, Marie-Laurence Despins va devenir la première personne au monde à être filmée 24 heures sur 24, jour et nuit.
Elle est superbe. 22 ans, de bonne famille, étudiante en biologie à l'Université McGill. Elle joue du piano, elle chante, elle danse. Et une diction et une dentition parfaites.
Oui, je pense que nous nous sommes mal compris, Michel. Je n'ai peut-être pas été assez claire. Nous ne recherchons pas un modèle au sens exemplaire du terme, mais au sens représentatif. Quelqu'un à qui notre public peut s'identifier.
Oui, mais Charlotte...
Dites-moi, quel aurait été votre dernier choix?
Louis Jobin! Louis Jobin! C'est votre vie qui sera diffusée en direct sur Cité-Vision, Canal 19!
Cet extrait du film canadien Louis XIX, Roi des ondes, illustre avec humour, humour noir parfois, l'envahissement de la télévision dans notre société. Le mot télé-réalité porte en lui un effet de contraste très fort, illustrant en soi cette symbiose entre le réel et le montage audiovisuel. Qualifié de créature hybride par certains, il est assez difficile d'en trouver une définition unique. Il faut dire que diverses émissions peuvent entrer dans cette catégorie. Globalement, on pourrait les classer en 2 sous-catégories. Au sens strict, il s'agit d'émissions dans lesquelles les participants sont enfermés dans un univers créé pour l'occasion, filmé en permanence et éliminé au fur et à mesure. Parmi ces premiers programmes, on trouve par exemple la fameuse émission Loft Story. S'éloignant de la forme du concours, on notera qu'un nombre croissant d'émissions prend désormais aussi l'allure d'une série. Pour n'en citer qu'une peut-être, les anges de la télé-réalité, où les protagonistes restent alors les mêmes du début à la fin de la saison. Par ailleurs, selon une seconde acception de la télé-réalité, ces émissions consistent à filmer une part de la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer. Concours de chant, de cuisine ou encore de danse, les participants ne sont alors pas filmés dans leur intimité. Ainsi, dans cette diversité, la télé-réalité s'inspire directement de nombreux genres, entre documentaires, sport, drame, divertissement. Si l'on date la première génération de télé-réalité aux années 1980, les prémices du phénomène sont assez anciennes. La première émission expérimentale du genre a été diffusée sur une chaîne américaine en 1973 sous la forme d'un format documentaire réaliste qui présentait la vie d'une famille blanche, cultivée, de classe moyenne. Plus en amont encore, on peut aussi considérer d'une certaine façon que l'on retrouve les fondements de la télé-réalité dans le célèbre film d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, sorti en 1954, et dans lequel le personnage principal observe le comportement de ses voisins d'en face. Depuis, la multiplication des technologies et des diffuseurs n'a cessé d'accroître les déclinaisons du genre. Globalement aussi, Ce qu'on peut dire, c'est que le téléspectateur a toujours aimé le scandale, le croustillant. Il aime aussi, sans se l'avouer toujours, être en position de voyeur et de juge. Mais voilà, est-ce si anodin, bon enfant ? La frontière entre la vie publique et privée s'estompe, peu à peu, et de plus en plus. La télé-réalité a suscité un certain nombre de réflexions de la part des historiens, psychologues ou encore sociologues. Mais quid pour le juriste ? On en parle dans un instant avec nos invités. La mer, le soleil et le sexe. La recette explosive, chantée par Gainsbourg, semble se retrouver dans plusieurs émissions de télé-réalité. On ne parlera pas ensemble de toutes les émissions, on parlera pas mal certainement de l'émission L'île de la tentation, car c'est un objet de recherche juridique pour vous deux, Laurent Gamet, Arnaud Casado, mais pas que. Plusieurs émissions, plusieurs questions interrogent globalement le juriste pour cerner ce phénomène plus large qu'est la télé-réalité. La première question relève certainement d'un sujet qui a agité la doctrine, la jurisprudence, et qui est celle de la qualification des participants. Alors, je m'adresse à vous dans un premier temps, Laurent Gamet. À cet égard, vous avez analysé le rôle des participants à l'île de la tentation. Pour rappel, du concept, quatre couples non mariés, sans enfants, ils testent leur amour face à la tentation d'une vingtaine de beaux et belles célibataires. Alors, vous l'avez décrit avec plus d'humour que moi. Je vais vous laisser le faire ainsi, d'ailleurs. Dans certaines de vos publications, en quoi leur participation les fait-elle dépendre du droit du travail ?
De prime abord, il n'est pas évident d'y voir une relation de travail salariée. Mais tout a commencé par une réflexion que nous avions conduite avec le professeur Danny Cohen lorsque a été diffusée l'émission Love Story. Love Story, c'était en 2001, si je ne me trompe pas, avec un principe, pour la première fois sur la télévision française, de candidats qui étaient enfermés dans une maison. Ils devaient jouer leur vraie vie, enfin leur supposée vraie vie, et chaque semaine, ou à une fréquence un peu plus espacée, l'un quittait le fameux loft, à la fois par un vote des téléspectateurs et par un vote du public. Bien évidemment, ceux qui ont conçu cette émission n'ont pas retenu la qualification de contrat de travail, mais ils voyaient un jeu. Alors, d'emblée, le jeu n'était pas si évident, et si on y réfléchissait, il pouvait y avoir les contours du contrat de travail. Avec Danny Cohen, on a réfléchi à cette question. Tout est parti, en vérité, d'une boutade. On va essayer de L'idée a émergé, et puis on a creusé, on a gratté, et il nous est apparu qu'il y avait un travail, encore que ce n'était pas évident que de ne rien faire puisse être un travail, mais compréhension assez large du travail, notamment quand il répond à une obligation, et il y avait bien une obligation. Un travail qui était accompli moyennant rémunération, puisqu'il y avait ce qui était présenté comme un gain, mais surtout, il nous paraissait qu'il y avait une subordination. Et pour le juriste de droit du travail, existence d'un travail, existence d'une rémunération, existence d'une subordination, on pouvait en déduire la qualification de contrat de travail. C'est ce que nous avions démontré dans un article paru à Droit Social en septembre 2001.
Alors on va parler des conséquences après de cette qualification, mais si on reste sur l'aspect qualification et qu'on pense à des émissions qui poussent un peu les limites en fait, des participants dans leur... dans ce travail, dans ses obligations, dans ce qui les lie à la société de production. J'évoquais tout à l'heure des émissions qu'on attache dans leur classification à des émissions d'enfermement avec des caméras fixes, cachées. Je citais Loft Story, vous l'avez fait aussi. Là, on a clairement des conditions qui mettent en balance la question de la liberté d'aller venir, la question de la communication, les horaires aussi qui sont de 24 heures sur 24. Alors, quand on est sur ce type d'émission, Arnaud Casado, est-ce que, selon vous, on reste sur des choses qui sont compatibles, comme vous l'expliquiez, avec cet aspect subordination, droit du travail? On a ici des limites dépassées, quand même.
Alors, effectivement, la question se pose, puisque pour un travailliste, depuis l'arrêt Barra, depuis l'arrêt Labanne, on sait bien qu'il y a une indisponibilité de la qualification de contrat de travail qui répond au principe de réalité. Donc, on regarde dans les faits ce qui se passe. Et on a le parallèle pour la chambre criminelle avec l'arrêt Guégan depuis 85, où on nous dit que dans une matière d'ordre public comme le droit du travail, la seule volonté des intéressés, elle est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle des conditions d'accomplissement de son travail. Donc, on a des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation qui nous dit que les participants à des émissions de télé-réalité sont en réalité des travailleurs salariés. Et de là, on doit appliquer le droit du travail. Or, quand on regarde le temps de travail, la législation sur le temps de travail, bon, normalement, toutes les 6 heures, le salarié a le droit à 20 minutes de pause. Vous évoquiez Loft Story, alors, source Wikipédia, le Loft, première saison, ça a été filmé 24 heures sur 24, et saison 2, 22 heures sur 24, puisque le CSA a demandé que les caméras soient coupées pendant 2 heures. Vous voyez qu'on est assez loin de la pause de 20 minutes toutes les 6 heures. Et s'il n'y avait pas de caméra uniquement dans les toilettes première saison, il y a une dans la deuxième saison une pièce dite CSA, puisque réclamée par le CSA, pour que les personnes puissent s'isoler quand elles le souhaitent, se soustraire aux yeux de la caméra. Mais on voit bien qu'ici, on peut se demander si légitimement, effectivement, on ne dépasse pas allègrement le droit du travail, surtout que on a eu des rappels en jurisprudence tant nationale que supranationale que le droit à la santé des salariés par le droit au repos était un droit fondamental. Et 22 heures sur 24, eh bien, on peut se demander si ce n'est pas un peu excessif.
Alors, en plus, il y a aussi ce qui était implicitement évoqué, Laurent Gamet, avec vous, sur la nature de la prestation. On a des émissions où la plupart du temps est passé sur une plage, à bronzer ou à des activités qui sont... d'un ordre un peu oisif. Le fait est que, de toute façon, les participants acceptent d'être filmés pendant ces activités, pendant cette longue période. Alors, la question à laquelle j'en viens, c'est la question du consentement. Quand on a des candidats qui acceptent, de toute façon, ces conditions extrêmes de durée ou de conditions de réalisation, est-ce que ça en devient, au sens juridique, un laissez-passer à des conditions illégales?
Alors non, mais sur le premier point, l'impression de farniente, quand on regarde les décisions de justice, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement cela. Parce que l'arrêt qui est un peu fondateur de cette question, c'est l'arrêt dit de l'île de la Tentation, vous avez fait référence à ce jeu, un arrêt qui a été rendu le 3 juin de 2009. Et dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle, comme vient de l'indiquer Arnaud Casado, le fait que la qualification de contrat de travail est indisponible. Mais aussi, et c'est le point sur lequel je veux insister, c'est que la Cour de cassation dit que les participants ont l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, ils doivent suivre les règles du programme défini unilatéralement par le producteur, ils sont orientés dans l'analyse de leur conduite, Certaines scènes sont répétées pour valoriser des moments essentiels, les heures de réveil et de sommeil sont fixées par la production, le règlement leur impose une disponibilité permanente, interdiction de sortir du site, de communiquer avec l'extérieur, et avec le règlement qui précise que tout manquement est sanctionné par le renvoi. Bref, sur le Farniente, on voit bien que quand on creuse la question, c'est pas seulement ne rien faire, c'est faire ce qu'on vous dit de faire. Après, sur le fait qu'ils soient d'accord pour déroger à l'application du droit du travail, qui serait que la conséquence de la qualification de contrat de travail, et même admettons qu'ils soient d'accord pour échapper à la qualification de contrat de travail, eh bien tout cela, la Cour de cassation, ça a été rappelé par Arnaud Casalo, elle dit que non, cette qualification est indisponible, le régime qui s'ensuit est lui aussi indisponible, on ne peut pas y déroger.
Alors comment on fait ? Quelle stratégie d'évitement on met en place quand on est une société de production pour déroger à ça ?
Alors, tout d'abord, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que si quelqu'un s'intéresse aujourd'hui au droit du travail, aux conditions de travail, est-ce qu'il en restera dans 100 ans ? Je pense qu'on parlera autre chose que ceci, qui est un épiphénomène. Alors épiphénomène, plus intéressant de parler de cela que de parler d'autres sujets peut-être, et d'ailleurs les professeurs de droit y ont participé, parce que dans les premiers jours, les premières heures de l'initiation au droit du travail...
Ah, et les auditeurs seront très intéressés par cette émission du mois de mai, soyez-en sûrs.
Bien sûr, mais on avait toujours un peu les mêmes exemples pour expliquer les doutes sur la qualification du travailleur, on parlait des formateurs ou bien des médecins qui intervenaient dans les maisons de retraite, vous réveillez autrement plus les étudiants en leur parlant de Love Story et en détaillant le contenu de ces émissions. Bon. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur et les conséquences du phénomène. C'était plus vu sous un œil amusé et amusant qu'autre chose. Après, il n'empêche qu'il y a quand même eu un contentieux qui n'était pas tant d'ailleurs sur les questions de liberté publique que vous évoquiez. La question essentielle, c'était des sous, c'est-à-dire ce que on voulait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu paiement de la rémunération minimale. Ce qu'on voulait dire, c'était que le licenciement, puisque l'éviction du jeu, ça n'allait dire des licenciements, justifiait qu'il soit accordé des indemnités de licenciement, et en tout cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc bon, reste que le contentieux a disparu. Alors on peut se demander pourquoi. Eh bien, si on réfléchit, et cette fois-ci en ayant un œil ou une attention qui ne soit pas seulement de travailliste, mais qui s'intéresse aussi au droit international privé, le plus facile pour échapper à tout cela, c'est de tout relier à l'étranger. Et comment on relie tout à l'étranger ? Eh bien, on recrute, après tout, pourquoi pas des salariés, mais très très loin de la France. On rédige les contrats en une langue qui n'est pas le français. On paye en une monnaie qui n'est pas la monnaie française, on écrit le contrat dans une langue qui n'est pas le français, bref, vous avez compris, le seul fait que l'un des participants soit français ne justifie pas, premièrement, la compétence des juridictions françaises, encore qu'on pourrait discuter avec les règles du droit international privé, mais surtout, ne justifie pas l'application de la loi française. Et donc, la disparition brutale du contentieux, vous allez me dire, chasser l'autre, maintenant c'est les Uber et les autres, bon, toujours c'est une question de qualification, mais la disparition du contentieux montre bien, et là encore, si on se réfère à Wikipédia pour voir où ces émissions sont tournées, notamment l'île de la Tentation, c'est pas tourné sur les plages du Var, c'est bien évidemment tourné loin en Asie, avec des équipes de production qui, elles, sont parfaitement soumises, sans doute, au statut qui découle des conditions de leur travail. Mais par contre, les participants, et dès lors, allez saisir le Conseil de Prud'homme de Paris. Pourquoi pas, en raison du privilège de juridiction, admettons, si vous êtes français. Mais allez faire appliquer le droit du travail français, alors que vous avez tous ces éléments d'extranéité que rien ne rattache à la France. Eh bien, bon courage, et on voit bien que le contentieux a disparu.
Bon, alors quittons un instant l'île de la Tentation. On va reparler d'une notion en fait qu'on a abordée il y a quelques minutes, qui est celle du consentement. Consentement dans la formation du contrat. Alors moi, je voudrais faire le lien avec une autre émission donc qui m'a questionnée, qui est l'émission Mariée au premier regard. Alors je sais que vous êtes moins spécialiste de ce sujet. Le concept est différent, fondé comme son nom l'indique sur le fait qu'un mariage entre deux candidats est proclamé, deux candidats qui se rencontrent pour la première fois le jour de ce mariage. devant le maire de la commune sur la caution de plusieurs experts qui estiment qu'ils ont une très forte probabilité de compatibilité au vu de résultats de tests qu'ils ont eu à passer au préalable. Mais voilà, l'idée de se dire oui sans se connaître, sous la pression des caméras, qui plus est, Arnaud Casado, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on peut estimer ici que le consentement est libre et éclairé en matière contractuelle ?
Vous vous souvenez de la maxime de Loisel, Sophie ? En mariage, trompe qui peut, surtout le spectateur, si on s'appelle la production. Alors, plus sérieusement, s'agissant des vices du consentement, on a l'article 180, alinéa 2 du Code civil, qui nous dit que s'il y a erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles, eh bien, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Et la jurisprudence, elle a reconnu plusieurs types d'erreurs sur la personne, comme par exemple, ce qui peut intéresser les candidats de télé-réalité, que l'un des époux avait une liaison en cours qu'il ne souhaitait pas abandonner, ou alors qu'avant, l'épouse ait eu une activité prostitutionnelle, voire même qu'elle ne soit pas vierge, dès lors que cette condition est déterminante pour le conjoint. Et donc, on peut tout de suite se dire qu'en matière de consentement, il pourrait y avoir des problèmes sur les qualités essentielles de la personne si la production n'a pas vérifié au préalable que tous ces éléments-là ne sont pas des éléments déterminants pour l'un des deux conjoints. Mais ce n'est pas le seul problème que pose cette question. Par exemple, la publication des bans qui doit se faire avant le mariage. On peut trouver ça très curieux quand même qu'on va publier les bans de mariés qui ne se connaissent pas encore. Et puis, il y a l'intention matrimoniale. L'intention matrimoniale, ici, on peut se demander, en tout cas, il n'est pas inconcevable de penser que certains de ces candidats ne veulent consentir à ce mariage que dans le but d'accéder à une certaine notoriété, voire de la pérenniser ensuite avec d'autres émissions du même acabit.
Et d'autant plus si c'est des travailleurs, comme on vient de le démontrer.
Alors, ça, c'est encore un autre élément. Là, c'est l'idée de savoir si le consentement est librement exprimé quand, en vertu de son contrat de travail, on te dit, devant la caméra, tu dois jouer le jeu. Mmh. Mais même l'intention matrimoniale derrière, même la personne qui se dirait, bon, je vais rentrer là-dedans parce que j'ai un projet matrimonial, peu importe à qui c'est, on peut se demander pourquoi il le fait. Si c'est juste pour avoir son quart d'heure de célébrité, est-ce qu'on n'est pas là devant un mariage gris ? Et puis, pour aller plus loin dans la réflexion que proposait Laurent Gamet, on observera que depuis la saison 5, cette émission, le mariage n'est plus célébré en France, mais à Gibraltar, histoire de ramener un petit peu un élément d'extranéité.
Alors, j'en reviens au statut du participant, quand même, qui nous occupait initialement. Laurent Gamet, est-ce que d'une certaine façon aussi, ces participants, globalement, ne sont pas des artistes-interprètes ? Un autre statut qu'on peut discuter ? Est-ce que c'est,
La question s'est posée, notamment elle s'est posée pour les participants à l'île de la Tentation. Et là, la Cour de cassation, non pas la Chambre sociale, mais la première Chambre civile, dans un arrêt du 24 avril 2013, a dit que non. Et elle le dit en précisant que les participants n'ont aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire. Ils ne leur est demandé que d'être eux-mêmes. C'est déjà en soi un spectacle, mais enfin, ils sont eux-mêmes. Ils ne lisent pas de texte. Et ils doivent, dit la Cour de cassation, exprimer leur réaction face aux situations auxquelles ils sont confrontés, c'est-à-dire le fait d'être trompés. Eh bien, nous dit la Cour de cassation, le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffit pas à leur donner la qualité d'acteur. Et la Cour de cassation précise que leur prestation n'implique aucune interprétation. Dès lors, la qualité d'artiste-interprète ne peut leur être évidemment reconnue.
Alors, on va rester sur ce lien de subordination. On va parler des conséquences, finalement, maintenant qu'on l'a qualifié. Arnaud Casado, concrètement, au plan de la sanction possible contre le participant, qu'est-ce que ça implique ?
En droit du travail, les choses sont assez simples. La faute, c'est l'inexécution contractuelle ou l'exécution fautive du contrat de travail. Alors, je n'ai pas les contrats, et, a fortiori s'ils ne sont pas rédigés en français, mais donc on peut se dire qu'il y a faute lorsque le participant à l'émission ne respecte pas en réalité les obligations inscrites au contrat. Et là, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a sans doute un gap qui existe entre les règles du jeu telles qu'elles sont présentées aux téléspectateurs et ce qui est inscrit dans le contrat. Et on peut se dire qu'il y a sans doute des fautes contractuelles qui ne sont pas des fautes de jeu et vice-versa. Et Laurent Gamet l'a évoqué tout à l'heure, des fois il y a des éléments liés à des votes du public. Ces éléments, ce sont des éléments qui sont dans le jeu, mais est-ce qu'ils sont pour autant contractuels ? Il y a sans doute toute une question à voir ça. Sans avoir les contrats, c'est difficile d'aller plus loin.
Oui, on va reparler tout à l'heure éventuellement du public, parce que du téléspectateur, c'est une question qui est annexe, mais très importante également. Mais peut-être sur la sanction, il y a une notion qui... je ne suis pas spécialiste au droit du travail, mais qui est très importante, qui est celle de la loyauté probatoire pour établir cette faute du salarié. Et si on fait un lien avec une autre émission dont on n'a pas encore parlé, qui est en France nommée Patron Incognito, qui a d'autres appellations à l'étranger. Pour le concept ici, c'est un chef d'entreprise qui se fait passer pour un employé de sa propre entreprise pour y observer ses travailleurs, découvrir les coulisses de son entreprise. Alors, est-ce que ce patron-là pourrait utiliser les informations récoltées par cette méthode pour venir sanctionner une faute observée ? Parce qu'on n'est pas ici un peu limite dans l'utilisation de l'observation.
Alors, il y a 10 ans, je n'aurais pas donné la même réponse. Parce que traditionnellement, l'employeur ne pouvait pas user de moyens de preuve déloyaux vis-à-vis de l'un de ses salariés. Mais cela a beaucoup évolué sous l'influence du droit à un procès équitable. En droit social, on a un arrêt important qui est l'arrêt Petit Bateau, où on avait déjà vu que la loyauté probatoire, c'était un concept malléable, c'était des éléments qui peuvent intéresser vos auditeurs, puisque c'était lié à des publications sur les réseaux sociaux.
En pénal aussi, c'est malléable.
Ah. Alors oui, mais alors justement, là, on a un arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023 qui nous précise précisément dans un procès civil, et donc pas uniquement dans le procès pénal où là, ici, la preuve est libre, eh bien, la Cour de cassation nous dit en assemblée plénière, donc plus haute formation, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, et mettant en balance le droit de la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit de la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Bref, on le voit. Si, en réalité, l'employeur qui, incognito, découvre que son salarié commet une faute, si la production des éléments qui seraient captés lors de cette émission sont indispensables pour justifier la sanction et qu'on considère que cela est strictement proportionné au but poursuivi, eh bien la porte n'est pas totalement fermée.
Alors, si les portes ne sont pas fermées quand même, est-ce qu'on a des limites à la diffusion de ce type de programme ? Enfin, c'est peut-être quand même la question sur laquelle on peut... On peut aller, avant de changer de sphère, d'aller sur la question du droit pénal, mais Laurent Gamet, quelles sont les limites à ça, à cette diffusion dans ces programmes, puisqu'on a la sensation quand même que les bornes de tout ça sont assez malléables quand même.
Oui, alors sans doute ne faut-il pas mettre toutes les émissions dans le même sac,
non.
C'est-à-dire qu'il y a des émissions qui, je ne sais pas si elles sont divertissantes, mais... On va pas jouer les directeurs du couvent des oiseaux. Et il est parfois plus agréable, quand vous revenez chez vous très fatigué, de regarder les Marseillais ou je ne sais qui, plutôt que de lire un précis de droit fiscal. Bon. Il n'empêche quand même que vous avez des émissions qui semblent passer les bornes. Ou alors, les bornes, on les a mis très très loin. Et sur ce plan, il y a quand même la loi qui dit quelque chose. Alors, je suis loin d'être spécialiste de la loi sur la communication ou du droit de la communication, mais vous avez la loi du 30 septembre 86, qui est la loi cardinale relative à la liberté de communication, qui prévoit notamment que sont bannies, pour les diffusions à l'antenne, les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, à la protection des mineurs, à la santé publique et aux droits des femmes. Sans compter toutes les obligations de déontologie qui pèsent sur les télévisions et les radios, et avec en surplomb une obligation qui est commune à tous les éditeurs, qui est celle de la maîtrise de l'antenne. Et il revient à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, fameuse ARCOM, de faire respecter la loi et si besoin en recourant à la sanction. Alors, des sanctions sont prononcées, mais est-ce qu'elles sont suffisantes ? Est-ce que... Compte tenu de l'audience de ces émissions, il n'y a pas un véritable sujet d'ordre public qui mériterait qu'on s'y intéresse de plus près. On ne va pas verser dans un jansénisme excessif, mais il me paraît parfois qu'on pourrait un peu plus sanctionner qu'on ne le fait cette télévision poubelle qui, ne nous y trompons pas, est très regardée. On le voit notamment chez nos étudiants qui passent des heures autrement plus importantes à regarder cela plutôt qu'à fréquenter les bibliothèques.
Et alors sur le plan pénal, Arnaud Cazadon, on va en parler avec vous parce qu'au plan pénal aussi ça questionne. Là on va reparler spécifiquement de l'île de la Tentation parce que vous êtes penché sur l'analyse pénale des situations auxquelles cette émission a pu donner lieu. Vous l'avez fait dans un article qui est paru récemment, le 19 février 2024, dans Libération, dans lequel vous avez discuté plusieurs qualifications juridiques. Alors j'aimerais qu'on y revienne ensemble. D'abord, celle du harcèlement sexuel.
Oui, bah parce que malheureusement, ces émissions ne sont pas exemptes de la question des infractions sexuelles. Pour en donner une seule illustration, dans l'émission « Below Deck Down Under », eh bien, une jeune femme qui avait trop bu a vu un autre participant rentrer nu dans son lit. Alors heureusement, les caméras étant là, la production est intervenue immédiatement et le libidineux noctambule a été renvoyé. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Alors, s'agissant de l'île de la tentation, je vais élargir un tout petit peu au pénal, puisque le harcèlement sexuel, on l'a dans le code pénal, mais on l'a aussi en droit du travail. Alors, je vais commencer par le droit du travail. Et désolé pour les auditeurs, mais je vais reprendre le texte. Aucun salarié ne doit subir des faits. Aucun salarié, ça veut donc dire même le participant à une émission de télé-réalité. Et on nous dit, soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et ce harcèlement sexuel, aujourd'hui, il peut être caractérisé lorsque la répétition elle ne vient pas du même auteur, mais elle est appliquée, entre guillemets, à la même victime. C'est-à-dire quand c'est le même salarié qui le reçoit, que ce soit un autre salarié même qui lui fasse la répétition, s'il sait que le premier salarié a fait un acte. C'est la suite de l'article, je ne vais pas vous lire tout ça. Alors, la difficulté, c'est qu'on pourrait se dire, oui, d'accord, mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, les participants, ils ont signé un contrat en disant, bah, moi, j'accepte de venir tester mon couple, et donc je suis consentant. Et effectivement, on a un arrêt inédit du 25 septembre 2019, où une salariée qui avait eu une attitude très familière de séduction avec son supérieur hiérarchique, qui avait répondu à des SMS sexués, eh bien, la Cour de cassation nous dit qu'elle a volontairement participé à un jeu de séduction réciproque qui exclut que les faits reprochés puissent être qualifiés de harcèlement sexuel. Donc on pourrait se dire, bon, bah, y a pas vraiment de débat. Simplement, je pense que l'analyse doit être un tout petit peu plus fine. Dans l'arrêt de 2019 que je viens de citer, la plaignante a eu une attitude ambigu vis-à-vis de l'auteur des faits. Et si on peut concevoir que certains participants ou participantes servent au charme des tentateurs, bah ils ne vont pas forcément avoir une attitude ambiguë vis-à-vis de tous. Vous avez rappelé tout à l'heure, ils sont une dizaine par candidat. Et donc, ici, déjà, on peut se dire qu'il y a peut-être un décalage avec cette jurisprudence. Ensuite, il y a une autonomie du harcèlement sexuel en droit du travail. En réalité, il n'y a pas besoin de l'intention en droit du travail pour caractériser le harcèlement sexuel, contrairement au droit pénal,
oui, voilà, qu'on verra. On est sur une différence.
Ensuite, on a même de la jurisprudence de la Chambre sociale qui nous dit qu'une relaxe de l'employeur au titre de l'infraction de harcèlement sexuel au pénal ne fait pas obstacle à la reconnaissance de faits de harcèlement sexuel au niveau de la relation de travail. Et pour aller plus loin, on a la jurisprudence qui a déjà reconnu du harcèlement environnemental ou d'ambiance, s'agissant du harcèlement sexuel, dans une affaire où le défenseur des droits a présenté des observations en ce sens pour dire qu'il était favorable à cette idée-là. Et donc on peut se dire que, à partir du moment où un des tentateurs a été éconduit, mais qu'il continue en réalité l'opération de drague, car selon son contrat de travail, pour réussir l'émission, eh bien, il doit faire céder l'autre partie, eh bien, ici, il y a quand même un vrai risque que les faits puissent être caractérisés de harcèlement sexuel. Je cite un autre arrêt très rapidement, mais qui nous dit que des blagues potaches s'accompagnant de gestes physiques, eh bien, peuvent être considérées comme du harcèlement sexuel. Or, quand on regarde ces émissions, bah, malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on nous sert matin, midi et soir. Donc ça, c'est pour le côté droit du travail.
Et oui.
Et maintenant, il y a le droit pénal.
Le volet pénal.
Alors, le texte est globalement identique, donc je ne vais pas revenir. Pour ceux qui auraient envie d'aller consulter, c'est l'article 222-33 du Code pénal, mais c'est la même façon de le présenter. Simplement, il y a une différence majeure, c'est que ici, les actes doivent être volontaires, ils doivent avoir été imposés. Et donc, il va falloir prouver l'absence de consentement à qui on aura imposé ces actes, donc c'est-à-dire montrer que le participant n'était pas consentant aux actes qui ont été donnés. Et là, on va rentrer dans une zone un peu grise, car si la jurisprudence a déjà considéré que des baisers imposés à un collègue ou des caresses ou d'autres gestes à caractère sexuel pouvaient caractériser un tel harcèlement, eh bien, devant la pression de la caméra, on peut se demander, la participante qui se laisse embrasser une fois, peut-être deux, qui se laisse caresser une ou deux fois, eh bien, voilà, peut-être qu'il y a là des choses qui, en tout cas, pourraient constituer un terreau favorable au harcèlement. Encore une fois, A fortiori quand vous avez un tentateur qui s'est déjà vu opposer à un refus et qui revient à la charge en espérant remporter la mise.
Alors là, le harcèlement, c'est une des qualifications, effectivement, que vous discutez, mais il y en a d'autres. Il y a la question du proxénétisme, qui est encore une autre dimension.
Tout à fait. Alors, pour le proxénétisme, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre cela. La prostitution, c'est la condition préalable du proxénétisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proxénète sans prostitution. Et le proxénétisme, c'est aider ou tirer profit de la prostitution d'autrui. C'est réprimé par l'article 225.5 du Code pénal. C'est quoi la prostitution ? Parce que pour qu'il y ait proxénétisme, encore une fois, il faut qu'il y ait prostitution. Eh bien, on n'a pas de définition légale. C'est la chambre criminelle qui nous a donné une définition en 96 et qui nous précise que la prostitution, c'est des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. J'insiste sur cette définition parce que la définition n'impose pas que le contact avec autrui soit le contact avec le bénéficiaire direct de la personne dont on satisfait les besoins sexuels. C'est une interprétation qui est commune, mais ce n'est pas la lettre de la définition de la chambre criminelle. Or, puisqu'on est en pénal, eh bien, on va se permettre une interprétation stricte. Et ici, eh bien, on peut se poser la question du bal des prétendants, parce que quelle meilleure façon de prouver qu'on a brisé le couple que justement de parvenir à un acte sexuel, et donc une certaine satisfaction des besoins sexuels d'autrui. Il y a vraiment ici une question qui se pose. Alors, il faudrait regarder si les contrats de travail mettent une prime à l'accoucherie. Je n'ai pas les contrats de travail. Ils n'ont pas été traduits en français. Et donc, je ne peux pas vous le dire, mais on voit bien que c'est un des objectifs véritablement. Alors, certains pourraient tenter de dire « Oui, mais bon, de toute façon, ces choses-là sont très loin. Il n'y a pas forcément de contact direct avec un client final. » Je voudrais juste rappeler en un mot que le 2 mai 2024, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a présenté la stratégie gouvernementale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle, dans lequel elle revient sur l'arrêt du CAMING, qui est un arrêt récent de la chambre criminelle de 2022, où la ministre nous précise que le CAMING, eh bien, c'est une nouvelle forme de prostitution. On voit donc bien que cette idée d'acte sexué filmé pour un spectateur, eh bien, pourrait plus facilement rentrer aujourd'hui qu'hier dans cette catégorie, et donc, par jeu de conséquences, faire remonter le proxénétisme au niveau de la société de production.
Et on a ici une démonstration intéressante entre deux sujets qui, a priori, ne sont pas liés et qui tendent à le devenir. Pour finir sur ces qualifications pénales, Laurent Gamet, on a aussi la question du travail dissimulé qu'on peut...
Oui, dans la mesure où, si jamais la qualification de contrat de travail s'impose et qu'on échappe à cette qualification de contrat de travail, nous avons affaire à un emploi dissimulé, un travail dissimulé qui lui aussi est réprimé par les dispositions pénales d'une peine d'emprisonnement et d'amende.
Ça fait finalement beaucoup de dispositions et d'infractions potentielles à avoir en vue.
Surtout, ça nous montre que ces émissions, et c'est un exercice intéressant en cela pour les étudiants, là où on ne voit que des corps dénudés se frotter et se séduire, nous autres, avec un esprit beaucoup plus besogneux, nous qualifions et nous en déduisons des régimes.
Et alors, pour terminer cet échange, on peut parler justement d'un tiers, on n'a pas beaucoup évoqué, qui est le téléspectateur, finalement, qui est cette personne qui va regarder. Le public que vous avez cité tout à l'heure intervient parfois à l'issue de ces émissions quand elles sont sous forme de concours avec un pouvoir décisionnel sur l'élimination des candidats. Vous l'avez cité, ça renforce un sentiment d'interaction et en quelque sorte il fait un peu partie du jeu ici. Alors on n'ira pas sur le terrain de la complicité au plan pénal finalement, même si on pourrait y voir une question à poser. Alors faudrait rediscuter des conditions de la complicité, mais on le fera pas ici. Mais pour revenir sur les premiers temps de l'échange, sur la rupture du contrat de travail, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait ici d'avoir un vote du public par rapport à la cause finalement de rupture du contrat, est-ce qu'on peut y voir un lien ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une cause sérieuse dans la rupture si le public vote ?
Non, ça peut changer ça. Alors, le fait que le public vote ne change pas grand-chose au fait que c'est celui qui produit, enfin qui organise l'émission, qui prend la décision et c'est lui qui en est responsable. Mais de toute façon, la cause réelle et sérieuse ne se pose pas, puisque la rupture n'est pas motivée. Mm. Et donc, si elle n'est pas motivée, ipso facto, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, n'est pas motivé par écrit. Donc, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne fait pas discussion, si tant est, il revient, que le droit français soit applicable.
Merci pour cet échange qui, j'espère, donnera l'idée aux étudiants à qui vous parliez indirectement d'aller regarder notre droit français en regardant aussi ces émissions. Merci à vous deux pour cet échange.
Merci.
Merci beaucoup.
Câblé sur télé, l'image, le son sont mes spectres. Les programmes, je bête, les directs, je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. Aux sagas, les séries et au bang bang à l'américaine. Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi l'émission. Argo, Margot, je connais les ragots, je suis barjo comme Colombo. Comme un lundi, un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis un téléphile au-delà du réel, télécommandant chez les zappeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub. Dans les films, je veux du feu, l'amour et de l'aventure. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Stade 2, télé allumée, même sous la couette elle m'appelle. 19h20, je suis avec elle, comme à minuit ou 14h. Quand je me lève en jogging, je veux des maths à bonheur. Marié, deux enfants, faire du télé-shopping. Moi, chapeau melon, des pompons cuir à papa connu comme Cousteau. Je veux des jumeaux. Jekyll, Jekyll, un Cosby Show. Mon chien sera Scooby-Doo et se tapera la scie. Les histoires naturelles dans ma maison dans la prairie. Placer ma famille en or, oh, dans la pyramide. Sortir de la zone interdite et des histoires stupides. Un beau cabriolet d'amour, gloire et beauté. Oui, je suis matérialiste. Je veux ce que je vois dans le poste. Les couleurs de mon pays, sagacité, mon trop traîné au poste. Je lance la roue de la fortune, j'ai ma chance dans la chanson. Mes lettres valent du chiffre, je hais les artistes à 2 francs. Facile à chanter, tocard, je mets ton clip sur le boulevard. La 1, la 2,
mon clip dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Beaucoup d'argent, de guerre, de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Troisième mi-temps, tout le sport, je suis fou de téléfoot. Je suis la télé le dimanche, l'équipe du dimanche me branche. Gère dans la marche du siècle, parle-moi de capital. Y'a trop de bluff dans nos pages, les magazines, les reportages. Tout est possible, manipulé sous projecteur, contrôlé à la télé et nulle part ailleurs. T'y crois pas sans aucun doute, ça se discute, taratata, j'abats les masques, bute l'image qui percute. Reload, Dimat n'est qu'une histoire de genre. Gag vidéo, moi je suis pas un guignol du flash info. Sort ton œil du cyclone, t'as perdu de vue le vrai du faux. Quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Survolté comme un taureau fou, j'ai le syndrome du canapé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Y'a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2,
mon prix dans le jeu.
La 3, la 4,
je zappe et je mate.
La 5, la 6,
en sont les complices.
Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé.
Je zappe et je mate. Il ne nous rajeunit pas, cet extrait de Passy, sorti en 1997. Pour finir ensemble sur une perspective plus futuriste de la télé-réalité, je vous propose un extrait d'un article de Vincent Morel, publié dans Le Figaro, 19 février 2019.
12 participants vivent actuellement dans une ville fictive près de Tel Aviv. Au premier coup d'œil, l'émission 2025 est un curieux mélange entre le film The Truman Show et la franchise Big Brother. La chaîne Keshet 12 a lancé le 10 février dernier sa nouvelle télé-réalité futuriste. Pour les besoins de la production, un studio en forme de mini-ville a été construit spécialement à la périphérie de Yavneh, au sud de Tel Aviv. L'émission est produite par Yoram Zak, ancien directeur de la version israélienne de Big Brother, pour 15 millions de dollars. À venir, le directeur de Quéchette, et l'animateur Erez Tal ont gardé ce projet secret jusqu'au dernier moment. Les candidats de 2025 eux-mêmes n'étaient pas dans la confidence. Ils ont découvert l'endroit et les règles du jeu en direct, en même temps que les téléspectateurs. Toutes les installations de la ville ont un prix, que ce soit pour la nourriture ou le confort. On y trouve par exemple un hôtel, un restaurant, une boutique de mode et une banque. Dès leur entrée, les candidats peuvent choisir différentes options de couchage. Un banc public, gratuit, un module de sieste, peu cher, une chambre en colocation, moyen, ou une suite de luxe, cher, précise le site From the Grapevine. Pour pousser le concept jusqu'au bout, les vêtements des candidats ont été mis aux enchères dans une boutique de mode et les joueurs ont la possibilité d'appeler leurs proches par téléphone en utilisant leur crédit du jeu. Un gigantesque écran géant, visible par tous, met à jour en temps réel les achats des concurrents. La personne qui a le moins d'argent à la fin de la semaine sera expulsée de la ville. Pour renflouer le portefeuille des participants, des missions sont organisées tout au long de la semaine. 6 résidents robots et 2 hôtes sont sur place pour guider les joueurs. Les téléspectateurs peuvent également envoyer de l'argent en votant pour leur candidat préféré. C'est une ville dans laquelle tout le monde commence sur un pied d'égalité, peu importe d'où ils viennent, ce qu'ils ont accompli ou à quel point ils ont échoué. Quand ils arrivent en ville, le jeu commence. Celui qui saura jouer va atteindre le summum. Les autres n'auront pas leur place dans la ville.
Laurent Gamet, Arnaud Casado, alors on est ici dans une autre dimension de la télé-réalité, diffusée sur la chaîne 12, chaîne privée en Israël, très prisée aussi, chaîne productrice de grosses émissions à succès. Voilà, cette émission a questionné, mais on en a peu entendu parler chez nous. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que juriste français ?
En tant que juriste, je ne sais pas, mais en tant qu'homme, je me demande si on a touché le fond ou s'il faudra attendre une émission de télé-réalité où des migrants se battront pour une carte d'identité pour aller dans un pays où ils ne risquent pas leur vie.
Non, Gavet.
On a l'impression d'une vision plus que très aboutie du monopoly de notre enfance, ouais. Parce que c'est juste de faire des investissements et si on perdait, on perdait. Effectivement, ce n'est pas une réponse de juriste, mais une réponse d'humaniste, comme Arnaud vient de la faire. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on se demande jusqu'où... passer les bornes, il n'y a plus de limite, disait le sapeur Camembert. Et on a l'impression qu'à chaque fois, on se dit, mais quelle est la prochaine étape ? Ben voilà, nous y sommes, et peut-être qu'il y a encore d'autres étapes à venir. D'où l'importance quand même qu'à un moment donné, quelqu'un siffle peut-être la fin de la partie. Et c'est là qu'on peut croire au droit et à la loi, et notamment celle que nous citions sur la communication de 1986, pour qu'à un moment donné, les autorités disent « ça suffit ».
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'ai reçu aujourd'hui Laurent Gamet, professeur de droit à l'Université Paris-Est Créteil, doyen de la faculté de droit et également avocat associé chez Factory Avocat. Avec vous également, Arnaud Casado, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.